Period Talk, le podcast consacré à ouvrir la discussion autour des règles dans le monde. Bonjour et bienvenue, nous sommes les Réglettes, une association ayant pour objectif de participer à briser les tabous autour des menstruations et à lutter contre la précarité menstruelle. Chaque témoignage que vous allez entendre a été anonymisé pour respecter les récits de chacun et chacune. Dans ce troisième épisode, nous allons vous faire écouter des témoignages illustrant des vécus de personnes menstruées à travers le monde, en abordant des thèmes essentiels comme les douleurs, les tabous autour des règles et bien d'autres. Pour enrichir ces témoignages, nous allons parfois compléter avec des informations et actualités liées à ces portraits.
Les règles ne sont pas qu'une question de genre. Pour rappel, les personnes menstruées ne sont pas toutes des femmes. Peu importe qui nous sommes, nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans la déstigmatisation des règles. Les témoignages qui arrivent montrent l'impact du comportement de certains hommes sur le bien-être et confort des personnes menstruées.
Quand j'étais petite, peu de temps après avoir eu mes premières règles, je savais pas qu'il fallait que j'apporte plusieurs serviettes avec moi quand je sortais, car on ne m'avait jamais expliqué. Mon père était gêné et m'a fait me sentir honteuse parce qu'il a dû aller au magasin pour m'acheter un paquet de protection, dit une Américaine habitant aux États-Unis.
Quand j'étais jeune, j'avais honte d'aller au magasin acheter des serviettes pour moi. Alors je demandais à chaque fois à mon cousin, un garçon, d'aller les acheter pour moi. Parce que quand j'étais enfant, les menstruations étaient quelque chose qu'on devait cacher et qu'on ne devait pas en parler. C'était quelque chose de honteux peut-être. Mais maintenant, j'espère que ce n'est plus pareil et je peux en parler beaucoup plus facilement avec tout le monde sans aucune gêne, dit une Russe habitant en Russie.
En 2019, le livre « Welcome to your period » a été publié par une maison d'édition russe. Ce livre avait pour but de parler des règles pour aider les personnes menstruées dans leur quotidien. Mais rapidement, deux pages ont été censurées car elles étaient destinées aux enfants transgenres. Il faut savoir qu'en Russie, depuis 2013, une loi a rendu illégale toute discussion publique et message positif sur les sujets LGBTQIA+. Ces deux pages du livre enfreignaient donc cette loi. Ce témoignage laisse une note d'espoir, car maintenant la personne se sent totalement libre de parler des menstruations. Et nous devons aussi garder en tête ce que faisait son cousin. Il n'allait pas seulement acheter les protections périodiques, mais il permettait aussi à sa cousine de ne pas se confronter au regard des autres lors de ses achats. Ces témoignages sont plus centrés sur des ressentis très personnels et intimes.
Il m'arrivait de me sentir moins femme à cause de l'absence de mes règles, nous dit une Philippéenne habitant aux États-Unis.
Quand j'ai commencé à avoir mes règles, c'était un sujet dont je ne pouvais pas parler ouvertement avec ma famille. Je n'ai jamais vraiment eu de soutien et donc j'ai dû acheter mes serviettes tampons en secret, étant adolescent. Cela m'a causé beaucoup de honte et je me sentais constamment mal dans mon corps. J'ai encore beaucoup de dysphorie de genre à cause de mes menstruations, mais ça s'est amélioré avec le temps. Quand j'étais au collège, entre 2009 et 2015, il y avait un peu d'éducation sur la sexualité et des sujets comme ça, mais jamais d'une manière affirmant le genre. Je pense que nous devons encore aborder le sujet des menstruations dans un discours queer, car toutes les femmes n'ont pas de menstruations et toutes les personnes qui en ont ne sont pas des femmes. Savoir cela à l'école m'aurait également beaucoup aidé avec ma dysphorie de genre, dit un Allemand habitant en Allemagne.
Ces témoignages mettent en lumière un aspect encore trop peu abordé. Les menstruations ne devraient pas être un marqueur de genre. Être une femme ne se résume pas à avoir ses règles, tout comme toutes les personnes menstruées ne sont pas des femmes. Pourtant, l'éducation sur ce sujet reste largement insuffisante, laissant de nombreuses personnes dans l'incompréhension et la solitude face à leur propre corps. Une éducation plus inclusive permettrait de mieux accompagner celles et ceux qui vivent cette réalité, en leur offrant le soutien dont elles ont besoin. Ensuite, nous allons écouter un court témoignage sur un trouble encore trop peu connu. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'endométriose, mais qu'en est-il du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques ?
J'ai peut-être le SOPK et cela rend mes règles assez rares. Mon cycle dure environ 40 jours. Je peux pas vraiment prédire quand j'aurai mes règles, c'est un peu étrange. Parfois j'ai l'impression de pas pouvoir vraiment faire confiance à mon corps, dit une Française habitant en France.
Ce témoignage rappelle que les menstruations ne sont pas une expérience universelle et linéaire. Des maladies, comme le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, l'endométriose ou d'autres troubles hormonaux peuvent rendre les cycles irréguliers, imprévisibles ou extrêmement douloureux. Pour beaucoup, cela signifie une perte de contrôle sur leur propre corps et un sentiment d'incertitude constant. Pourtant, ces réalités restent largement méconnues et sous-diagnostiquées, renforçant l'isolement des personnes concernées. Une meilleure sensibilisation et reconnaissance de ces conditions est essentielle pour offrir un accompagnement adapté et briser le tabou qui les entoure. Les témoignages qui vont suivre sont centrés sur la contraception et ses effets sur le cycle menstruel, qui peuvent être positifs ou négatifs.
On m'a mise sous contraception de 2019 à 2023 à cause de ma vie sexuelle active. Cela a rendu mes humeurs, mes douleurs menstruelles et mes saignements 10 fois pires, et mes règles duraient en moyenne 2 semaines. Les médecins n'arrêtaient pas de me changer de méthode après plus de 6 mois avec l'une d'elles. J'ai finalement arrêté la pilule et mes règles sont maintenant régulées à 5 jours maximum et elles sont toujours précises. Pour moi, la pilule n'est pas assez étudiée pour comprendre comment elle affecte le corps des femmes et les médecins l'utilisent comme méthode de contraception dans de nombreux cas alors qu'elle n'est pas toujours bénéfique, nous dit une Américaine habitant aux États-Unis.
Je prends la pilule pour des raisons médicales et je la prends depuis mes 14 ans. Les stéréotypes auxquels j'ai dû faire face à cause de ça étaient horribles, au point que je me sentais honteuse de la prendre. Maintenant, j'en parle ouvertement et je veux encourager les autres en leur disant qu'il n'y a rien de mal à la prendre, surtout pour des raisons médicales, dit une Américaine habitant aux États-Unis.
La pilule ne devrait pas être proposée comme seule solution à des symptômes gynécologiques, mais sa prise ne devrait pas non plus être associée à l'utilisation contraceptive seule. Le témoignage suivant est l'illustration de la dure réalité à laquelle font face les personnes menstruées dans des sociétés encore très patriarcales et où les tabous autour des règles sont loin d'avoir diminué. Attention, ces témoignages vont parler de violences domestiques et de misogynie. Ils peuvent donc choquer les personnes sensibles.
Mon père et mon grand-père violents ont frappé ma sœur parce qu'elle était sortie jeter sa serviette hygiénique pendant une dispute. Ils pensaient qu'elle essayait de s'enfuir et donc de leur manquer de respect. En plus, ma mère ne me laisse pas laver mes sous-vêtements dans la machine à laver parce qu'elle considère ça comme impur et insalubre, vu que je pourrais y avoir saigné. Donc je dois les laver à la main pendant mes règles, ce qui est super pénible et une vraie galère, surtout que même les tâches de base sont difficiles pour moi à cause de ma dépression. Dans mon pays, il y a un énorme manque de sensibilisation sur le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, et les problèmes liés aux règles. Mon premier gynécologue m'a mal diagnostiqué en disant que c'était normal et que j'exagérais juste la douleur. Mon deuxième médecin m'a prescrit des médicaments qui affectent ma dépression et mon anxiété, me causent de graves problèmes gastriques et me font vomir si je ne mange pas à temps ou si mon alimentation n'est pas correcte. En plus, ça n'a pas du tout soulagé mes douleurs menstruelles, ça les a même empirées, au point que j'ai failli m'évanouir à cause de la douleur atroce et de la faiblesse de mon corps. Quand je suis retournée voir le médecin pour parler de ces problèmes, elle a juste augmenté la dose de mon antidouleur et m'a dit de parvenir avant 3 mois parce que le médicament allait forcément régler mon problème. 2 mois plus tard, après avoir dépensé des milliers de roupies en médicaments, que j'ai du mal à me payer parce que je suis élevée par une mère célibataire, loin de mon père violent qui ne m'apporte aucun soutien, ça m'a toujours pas beaucoup aidée, et en plus de tout ça, je dois encore gérer les effets secondaires, dit une Sri Lankaise au Sri Lanka.
Certaines personnes menstruées adaptent d'ailleurs leur tenue en période de règles, en s'imposant le port de couleur foncée. Si les règles au travail créent des inégalités, c'est en partie parce qu'elles imposent aux personnes menstruées une charge mentale spécifique, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est particulièrement lourde dans le milieu professionnel.
J'avais une douleur atroce à cause de mes règles et ma patronne a dit que tant que je ne pouvais pas le prouver, j'étais juste une flemmarde. J'étais barista, debout pendant 8 heures d'affilée, et oui, ma patronne était pourtant une femme, dit une Italienne habitant en Italie.
Une fois j'étais au travail et j'avais un flux très abondant. Je me suis sentie tellement gênée et anxieuse de demander une pause pour aller aux toilettes, donc j'ai saigné à travers mes vêtements et j'ai dû rentrer chez moi, dit une Américaine habitant aux États-Unis.
En France, il n'existe pas de congé menstruel prévu dans le Code du travail. Cependant, certaines entreprises ont commencé à instaurer des congés menstruels. On peut citer la société coopérative, La Collective, qui est la première en France à avoir instauré ces congés. Le premier témoignage nous vient de Malaisie et le second des États-Unis.
Mes crampes menstruelles pendant mes dernières règles étaient tellement douloureuses que je transpirais à grosses gouttes et je suis même devenue toute pâle. J'ai dû vomir tellement la douleur était intense. Dit une Malaisienne en Malaisie.
En Malaisie, des études montrent qu'environ 75% des étudiantes souffrent du syndrome prémenstruel et 70% de dysménorrhée. Sur ces études, 20% disent perdre une quantité excessive de sang.
Quand j'étais plus jeune, l'école était difficile parce que j'avais des règles plus abondantes et douloureuses. Je me faisais mettre en retenue pour avoir passé trop de temps aux toilettes. Faire des choses quotidiennes comme travailler, faire mes devoirs ou même écrire à un correspondant était épuisant. Je travaille aussi dans le secteur de la restauration, donc devoir servir les gens en étant souriante tout en ayant les pires douleurs est horrible, dit une Américaine habitant aux États-Unis.
Ces difficultés rencontrées peuvent rendre la vie d'une personne presque impossible. Aux États-Unis, le manque de soins entraîne parfois des situations extrêmes, avec des personnes ne pouvant plus supporter les douleurs qui mettent fin à leur jour. C'est pour ça qu'il faut continuer à se battre pour des études, une meilleure prise en compte et une vraie écoute de ces sujets-là. Parfois, les règles entraînent des douleurs si intenses qu'il devient impossible de travailler, d'étudier ou même de mener sa journée normalement. Pour faire suite à ces témoignages, saviez-vous que le 5 novembre dernier, la Commission de la formation et de la vie universitaire, CFVU, de l'UBO, a adopté à l'unanimité la mise en place d'un congé menstruel pour la communauté étudiante ? Ce projet, porté par la FEDEB, Fédération des associations étudiantes de Bretagne occidentale, est une avancée importante pour toute personne menstruée de la fac, qui permettra, on l'espère, d'améliorer les conditions d'études dans ces moments déjà pas simples à vivre. Les personnes menstruées étudiant à l'UBO vont pouvoir bénéficier, à partir de la rentrée 2025, d'un dispositif allant jusqu'à 20 jours de congé menstruel par an.
Merci d'avoir écouté cet épisode de The Period Talk. Nous espérons que ces témoignages vous ont permis de mieux comprendre les enjeux de la précarité menstruelle et l'importance de créer la discussion autour du tabou des règles. Retrouvez-nous sur Instagram. À très bientôt, les réglettes.